Bonjour, vous écoutez Radio Campus Lille. Alors nous sortons du colloque Liberté de conscience, Liberté pour la science. Alors Nina Sankari, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq. Et pourquoi vous êtes venue à ce colloque Liberté de pensée et de recherche en Europe qui vient de se dérouler?
J'ai été invitée par la Libre Pensée et j'étais très heureuse de pouvoir accepter cette invitation parce que c'est une occasion pour parler de l'état de la laïcité, ou plutôt de son manque en Pologne. Et vu cette raison aussi, de parler de l'imitation de la liberté des consciences en Pologne avec ses effets négatifs sur la liberté de la science. Mon but était surtout d'avertir mes collègues européens du danger que ce phénomène que nous fassions en Pologne ne se propage en Europe. Je suis vice-présidente de la coalition AT, une association qui vient d'être récemment créée à Varsovie et qui, depuis quelques mois, a pu déjà enregistrer des succès spectaculaires, à commencer par l'organisation des journées AT à Varsovie, 3 jours, des événements AT qui ont attiré une grande audience et auxquelles ont participé beaucoup des habitants de Varsovie et de toute la Pologne. Et c'était assez diversifié. Le premier soir, c'était des films athées réalisés par nos collègues, les membres de notre association. C'était des documentaires sur la liberté des consciences. Et c'est intéressant parce que le premier film de Zenon Kalafatic a été tourné en Afrique. Et c'était vraiment fascinant de voir, par exemple, une école sans religion, une école tout à fait athée et humaniste au milieu de l'Afrique. Et l'autre film a été tourné en Pologne. Les séances ont été accompagnées des expositions des dessins satiriques. Dessins satiriques athées et dessins qui montraient d'une manière satirique l'ingérence de l'Église catholique dans la vie politique et dans la vie quotidienne des Polonais. Et aussi, c'était des dessins de Peter Hell et aussi des affiches d'une artiste polonaise talentueuse, assez jeune, Maja Wolna, qui a eu le prix, premier prix au Biennale des affiches, Biennale internationale des affiches à Varsovie. Puis le deuxième jour, c'était la marche athée, suivie de la reconstruction historique de l'exécution de Kazimierz Wyszczyński, un noble polonais du XVIIe siècle, un philosophe, un athée, l'auteur du traité de non-existence de Dieu, qui, pour cette raison, a été exécuté d'une manière très cruelle. Son œuvre a été brûlée, sa main blasphématoire a été coupée, sa langue blasphématoire a été arrachée. À la fin, sa tête lui a été coupée et puis lui-même, il a été brûlé, ses cendres dispersées et ses terres confisquées, condamnées à ne plus jamais être cultivées.
L'Inquisition est très violente, l'Église catholique sait être très violente. On en a des exemples aussi en France, nous, André.
Oui,
en France, en Italie, Giordano Bruno, pour parler du XVIIe siècle, a été assassiné par l'Église catholique en l'an 1600. Pareil, il a été brûlé.
C'était en quelle année, donc L'exécution.
Casimir Uszinski a vécu au XVIIe siècle de 1634 en 1689. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire à fin mars où nous avons eu notre événement, c'était 325e anniversaire de sa mort. Sa mort martyr.
Donc ça, c'était sur l'école. Alors, par rapport au quotidien des gens, par rapport à l'université, enfin, c'est quoi? C'est le recul du progrès en Pologne? Comment ça se passe?
Je ne sais pas si je peux me permettre maintenant de vous présenter en quelques mots le processus de la délaïcisation de la Pologne, pour vous donner une idée. Donc, la délaïcisation de la Pologne après les changements, la transition, a été faite systématiquement. Il y avait des lois qui détruisaient la laïcité en Pologne, l'an par l'an, parfois plusieurs dans la même année. Je veux citer, par exemple, 91, mise en place de la commission mixte de l'épiscopat et du gouvernement pour la restitution des biens de l'Église. Et je vous signale que maintenant, l'Église est le plus grand propriétaire foncier en Pologne. Et il a récupéré les biens qu'il avait perdus, par exemple, au XVIe siècle, et pas après la Deuxième Guerre mondiale. La 1991, la loi sur les l'éducation dont j'avais déjà parlé. En 92, c'était la loi sur la radio et la télévision publique et privée qui obligeait les émetteurs de respecter les valeurs chrétiennes. Puis 93, c'était la signature du concordat avec le Vatican qui, après cette signature, déjà la démocratie en Pologne devient une figure rhétorique parce que là, la laïcité est complètement perdu. La 93, c'était la loi anti-avortement, et la loi anti-avortement une des plus restrictives en Europe, et on reste toujours à ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'IVG, l'avortement est permis uniquement dans trois cas, c'est-à-dire dans les cas d'un acte criminel, par exemple le viol ou l'inceste, dans les cas de malformation grave du fœtus, dans les cas du danger sérieux pour la vie ou la santé de la mère. Mais il faut dire que du moment que IVG a été supprimé, même les cas thérapeutiques ou même les cas légaux ne sont plus appliqués.
Et comment font les Polonaises? Elles vont à l'étranger?
Oui, le tourisme abortif, c'est bien connu. Les Polonaises, ou bien si elles ont des moyens, elles vont à l'étranger pour se faire avorter, ou bien c'est la clandestinité.
Voilà, donc la clandestinité est revenue.
La clandestinité est revenue et il y a tout un film documentaire réalisé par deux féministes qui s'appelle « L'état clandestin des femmes » qui montre l'enfer des femmes qui se font avorter dans la clandestinité et tous leurs problèmes autres que l'humiliation.
C'est dangereux physiquement, oui, c'est dangereux pour la santé.
Pour le moment, ça se passe toujours dans les cabinet privé, c'est pas les faiseuses d'anges. Actuellement, seulement ça se fait dans un climat de telle pression que, par exemple, les femmes sont obligées de sortir tout de suite du cabinet. Et on voit dans le film une femme qui sortit à moitié éveillée et qui s'allonge sur un banc parce qu'elle ne peut pas marcher du tout, parce que les médecins ont peur de descendre dans les cabinets.
D'accord.
Et puis, je n'ai pas terminé pour toutes ces lois. C'était la nouvelle constitution en 1997 supprimait déjà la séparation de l'Église et de l'État parce que l'épiscopat polonais était contre. En 1998, le nouveau code familial et code de civil est introduit. Et ce code légalisait le mariage confessionnel, ce qu'on appelle chez nous le mariage concordataire. Cela veut dire que les nouveaux mariés se marient uniquement à l'Église et ils ne vont plus à la mairie pour reconfirmer leur mariage civil. C'est le prêtre qui porte les papiers et ainsi, je dirais que les institutions d'État, sont, leur importance est diminuée. En 2008, c'était la bataille de l'Église contre la méthode in vitro, par exemple, si on parle de droits reproductifs. En 2010, l'épiscopat a menacé tous les députés qui seraient favorables à la fécondation in vitro, mais il a menacé de l'excommunion.
Et les réactions ?
Excommunication. Donc, il faut dire que ça variait un peu dans le temps. Maintenant, nous sommes à 25 ans de cette transformation, à 25 ans de ce processus et réactions variées. Au début, il y a eu une certaine opposition, réaction, par exemple, à l'introduction de la voie anti-avortement. Les activistes ont pu collecter 1,5 million de signatures en demandant le référendum à ce sujet, mais cette énorme initiative citoyenne a été tout simplement négligée et notre Parlement n'a jamais même s'en est occupé. Et ça a provoqué une certaine apathie pendant une période. Et maintenant, je pense que quand même la société commence à se réveiller et à agir. Parce que d'abord, il y a eu énormément de scandales dans le champ de mœurs. Je parle ici de scandales, par exemple, de pédophilie, de prêtres. Il y a eu beaucoup aussi d'informations sur les finances de l'Église qui ont apparu publiquement. Et cela révolte les gens. Donc, et les réactions contre cette dominance de l'Église dans la vie de Polonais commence à monter. Et une des preuves en était la participation assez grande participation des gens dans ces trois journées athées à Varsovie, ce qui a surpris beaucoup les médias et les médias de mainstream se sont présentés pour filmer, pour enregistrer des interviews, etc.
De taki tim body shambai, body shambai spianya terra, body shambai salvanya mai, omar omar.
Cher Nina, tu as expliqué qu'en 97 il y avait eu une loi qui interdisait, qui remettait en question la séparation de l'Église et de l'État en Pologne.
C'était notre constitution.
Tout à fait. Et tu as dit parce que l'épiscopat n'est pas d'accord et contre cette séparation. En France, nous avons le même problème. L'épiscopat aimerait bien supprimer la séparation de l'Église et de l'État. Et lorsque je t'entends, je me dis, mais comment ils ont fait ? Comment est-ce qu'ils ont pu s'arranger en Pologne pour obliger cette interdiction de séparation, de façon à comprendre comment nous se battre en France pour empêcher cette liquidation de la séparation?
Je pense que les cas ici ne sont pas tout à fait semblables. Le rôle de l'Église dans cette transformation appelée démocratique était dès le début énorme. Donc, c'était l'Église catholique qui a soutenu le changement. Et puis, c'était la facture qu'elle avait présentée aux gagnants de ce processus. Et donc, c'était la laïcité, la séparation de l'Église de l'État. C'était un butin, enfin, que l'Église catholique a acquéri, avec les droits de femmes en plus qu'il avait bien entendu exigé. Donc les droits reproductifs de femmes ont été en quelque sorte, avec la perte de la laïcité, la facture à payer à l'Église. Aussi, en échange, par exemple, de l'acceptation de l'Église catholique l'entrée de la Pologne en Union européenne. Donc ce n'est pas tout à fait la même situation. Seulement, ce que je peux quand même montrer comme une leçon, c'est que c'était les forces conservatives, traditionnellement conservatrices, qui se sont liées à l'Église pour faire ce changement qui a bien entendu été un changement dans notre cas, dans la direction d'un capitalisme très rapace, un capitalisme néolibéral. Et là, c'était beaucoup plus facile à réaliser. Là, c'était quand même quelque chose de spécifique. L'Église a construit, avec la droite, ils ont construit des stéréotypes opposés. Le premier, communiste, athéiste, égal un communiste, bien égal sûr, un traître à la patrie.
Mais tout à fait, c'est important.
Et puis,
ça,
un bon polonais égal un bon catholique. Chez vous, c'est pas pareil, c'est pas la même situation.
Donc on a parlé de l'école, et dans les universités, comment ça se passe, ou alors dans la recherche, puisque le colloque parlait de ce sujet.
Dans les universités, la religion, bien entendu, n'est plus obligatoire, et puis, sauf les facultés de théologie, qui sont dans les universités, qui se trouvent dans les universités publiques et sont financées de l'argent de contribuables, contrairement à la loi toujours en vigueur, mais c'est comme ça. Donc, passé ces facultés de théologie, la religion n'est pas enseignée, mais les lobbies religieux sont très actifs aux universités et ils disposent de beaucoup d'argent pour proposer beaucoup d'activités aux étudiants, en commençant par les pèlerinages, aussi bien dans le pays que, par exemple, pour aller à Vatican ou autre place, par des autres sortes d'activités, y compris les activités, par exemple, d'Opus Dei, qui sont très présents aux universités.
Et la scientologie?
Oui, les autres aussi. L'Église scientologique n'a pas pu réaliser un succès en Pologne. La position de l'Église catholique est trop forte et si dominante qu'il n'aurait jamais accepté de nouveaux venus, des concurrents. Là, peut-être, c'est pas mal encore. En ce qui concerne la recherche, pour revenir sur ce sujet, la recherche nécessite la liberté de conscience. C'était justement le sujet du colloque que nous avons eu ces deux dernières journées. Et on ne peut pas avoir la liberté de conscience dans un pays où l'Église intervient, ingère si fort dans la vie politique, dans la vie publique. Donc, il ne faut pas s'étonner que, en ce qui concerne la recherche, là, il y a aussi une grande pression de la part de l'Église catholique pour réconcilier la science et la religion. Parfois, l'Église agit directement pour s'opposer aux nouvelles découvertes ou les voies du progrès scientifique, dans les cas où ça touche, par exemple, au processus de la reproduction, à la procréation. Enfin, quand ça touche ce champ où l'Église accuse les scientifiques de se substituer au Créateur. Alors là, l'Église agit directement. Mais dans d'autres cas, l'Église lance une idée que la science et la religion, en fait, sont deux voies pour atteindre la vérité, pour aller vers la vérité. Bien entendu, la vérité qui est la vérité relevée, donc qui est la vérité religieuse. Et dans ce cadre-là, l'Église est bien favorable à supporter les scientifiques qui sont d'accord pour cette approche. Et il y en a en Pologne, et c'est pourquoi... par exemple, l'accommodationnisme ou l'énoma, comme principe, sont bien répandus dans le milieu scientifique.
Du colloque international organisé en particulier par la Libre Pensée, tu as fait une intervention sur une notion que nous ne maîtrisons pas en France et dont il semble que nous n'avons pas besoin. C'est la notion d'accommodationnisme. Peux-tu en quelques mots nous expliquer à nos auditeurs et à nous-mêmes ce que c'est que l'accommodationnisme?
L'accommodationnisme, c'est un principe ou bien une opinion, une vue, on peut dire une attitude qui a été inventée par philosophe et écrivain américain Austin Dacey. Une attitude, le plus brièvement, on peut dire, de ceux qui ou bien ne reconnaissent aucun conflit entre la religion et la science, ou bien, même s'ils le reconnaissent, ils sont un peu inclins à en discuter publiquement parce qu'ils veulent rester dans le respect de l'autre et ils trouvent que sur le plan éthique, la religion a beaucoup de bien à apporter. Et puis ça ressemble beaucoup, en fait, cette attitude à un autre principe qui a été introduit par Stephen Jay Gould, qui en fait est un moyen d'éliminer le conflit entre science et religion, en suggérant que la science et la religion contribuent différemment, dans des actes dans des différents domaines de l'existence humaine, et que les deux peuvent donner sens à la vie par de différentes façons. Cette théorie de Gould, appelée Noma, Noma par l'abréviation de son concept de non-overlapping magisteria, c'est-à-dire selon laquelle la science et la religion auraient des magistères qui ne se recouvrent pas. Donc la science s'occuperait du caractère factuel de la nature, et puis la religion s'occuperait du sens de l'existence, donnerait le sens de l'existence et de la morale. Bien entendu, c'est complètement faux, et c'est une manipulation dans l'un et dans l'autre sens. On peut prouver que d'abord la religion n'a pas du tout de compétences dans les champs de la morale, en tout cas pour les athées. D'autre part, que la religion s'occupe d'autres choses, s'occupe de fait, par exemple, dans le livre saint, on trouve les descriptions de l'origine de la vie sur la terre, où on trouve les descriptions de miracles que perpétués par Jésus-Christ ou autres, etc., etc. Donc elle s'occupe de la réalité, pas seulement de la morale.
Oui,
mais je pense que ce qui est très, très important, c'est de dire que ces deux attitudes, accommodationnistes, Noma est aussi en quelque sorte l'accommodationnisme, permettent enfin de dire que voilà, il ne faut pas, il ne faut pas critiquer la religion, en fait, parce que la religion se réserve tout le temps, et les gens des églises se réservent tout le temps le droit d'ingérence et le droit de juger la science.
Accommodationnisme, c'est aussi s'accommoder, donc on peut supposer que par rapport à la science dont tu parles et la religion qui s'occupe de la science, si on s'accommode, on accepte la théorie de l'évolution en même temps que le créationnisme. Or, les religions mettent en avant la notion de créationnisme, c'est-à-dire de création de l'univers, des dinosaures et des hommes préhistoriques 6000 ans avant... il y a 6000 ans, comme le dit la Bible, mais n'accepte absolument pas la théorie de l'évolution. Et du reste, la théorie de l'évolution qui a permis, depuis que Darwin l'a découverte, malgré sans doute ses limites, mais qui a permis de comprendre comment les vaccins et les antibiotiques fonctionnent, et qui permet à la science de continuer à progresser et à faire des recherches sur les problèmes des maladies qu'on ne peut pas comprendre avec la création en 6 jours.
Oui, mais là, il y a encore deux réponses de la part de l'Église et de la part de certains chercheurs qui sont sous son influence. On peut parler d'une opposition à l'évolutionnisme de type traditionnel ancien, c'est-à-dire de déni de l'évolution et de promotion de l'ancien créationnisme. Malheureusement, ça nous est arrivé aussi en Pologne. Un professeur, Maciej Giertych, d'ailleurs un ancien MEP, il a publié un article dans Nature, et avant il avait organisé plusieurs conférences où il soutenait que les hommes et les dinosaures dont tu avais parlé ont vécu au même moment, en niant les faits scientifiques d'évolution. Mais C'est vrai que néocréationnisme du type de dessin intelligent est une tentative de l'Église de s'approprier l'évolution en la manipulant. Redevenue une grande puissance économique. L'Église a retrouvé sa poids économique d'avant la Deuxième Guerre mondiale, où elle a été une grande puissance financière, économique. Et il y a des localités où l'Église est le seul employeur. Hein.
Bien sûr, oui.
Donc les gens, bien entendu, et c'est, l'Église peut distribuer les emplois, mais l'Église aussi acte comme une organisation de charité. Mais il faut dire que l'Église est dotée et subventionnée dans beaucoup de cas. C'est un argent énorme qui va de la poche des contribuables vers l'Église. En fait, personne ne sait, parce qu'il n'y a pas de compte rendu par l'Église de ces subventions, mais nous savons que ce sont les milliards d'euros par an. Donc, l'Église qui reçoit autant de subventions, d'autre part, est une organisation de charité qui distribue l'aide de charité aux pauvres en créant le lien de clientélisme, par exemple. Mais c'est vrai que cette position forte économiquement, bien entendu, renforce la position que l'Église a par rapport à l'État, par rapport au gouvernement, par rapport aux hommes politiques aussi. Mais aussi, pour dire, ce n'est pas qu'en Pologne. Je ne sais pas si vous savez que le fameux prix Templeton de la fondation américaine Templeton, qui est accordé aux chercheurs pour leur succès dans la réconciliation de la science et de la religion, ce prix à un montant plus élevé que le prix Nobel.
La fondation Templeton sévit principalement aux États-Unis, apparemment en Pologne aussi. En France, nous l'avons, mais nous avons une autre fondation en France qui prend la relève de la fondation Templeton, c'est la fondation Lejeune.
La fondation Lejeune, très appréciée par nos grandes familles fortunées régionales au champ. Et malheureusement, ce n'est pas le dossier de la fondation Lejeune.
Si nous, les Polonais, on n'a pas de prix Nobel en sciences depuis, je pense, Marie Curie, que nous partageons avec les Français, quand même, nous avons un prix Templeton, ça, oui. D'accord. Un scientifique, le professeur Heller, ça, oui. Dans ce domaine, nous avons nos champions.
Ça veut dire que la science, elle est prise en main par l'argent de la fondation Templeton, dont on sait tous les méfaits. On sait qu'aux États-Unis, la fondation Templeton paye aussi des scientifiques pour faire des recherches, pour aboutir à l'interdiction de l'avortement, sous prétexte que dès la première cellule, il y aurait peut-être une âme. Et c'est le but des chercheurs aux États-Unis. Chercher une âme dans la cellule numéro 1 de la rencontre du spermatozoïde et puis de l'ovule. Donc c'est grave.
Aussi, et je pense qu'au moment où l'on est, c'est donc au moment de la crise, et déjà dans un pays pauvre comme est la Pologne, où le budget pour la science, ce sont les promilles du budget, pas même le... Pour, c'est pas le pourcent, ce sont des promilles.
Promilles, oui.
Oui, donc les scientifiques sont à la merci des fondations différentes, sont à la merci des écoles privées, des écoles supérieures privées. Et là, l'Église devient encore une fois l'employeur.
Et des entreprises, et la recherche est privatisée, dont une partie au profit de l'Église.
Oui.
C'est comme partout en Europe, hein. Oui. Même au CNRS, on en parlait tout à l'heure.
Oui. Mais c'est ouais. incroyable. L'empire qu'ils bâtissent, ce n'est pas seulement... Ils rebâtissent leur empire de Moyen-Âge en nous, les citoyens, en faisant nous reculer dans le ténèbre de Moyen-Âge aussi.
Voilà, espérons qu'on ne va pas revivre le livre de Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir, mais on est bien parti. Vu ce qui se passe en Ukraine actuellement.
Oui.
D'ailleurs, on risque d'avoir un hiver froid, hein, parce que je rappelle quand même que les exportations de gaz russe passent principalement par l'Ukraine. Si c'est coupé, on aura froid cet hiver en France. En Pologne, je ne sais pas de vous importer votre gaz d'Ukraine.
Deux fois plus, je dis, parce que nous payons deux fois plus que, par exemple, les Allemands payent pour le même gaz qui passe dans les tuyaux par le territoire polonais.
Ah oui.
C'est extraordinaire.
Et oui. Ah oui, parce que les Allemands ont pu avoir des accords plus avantageux.
Nina, alors quel va être ton programme avant de repartir en Pologne? Parce que je pense que tu vas repartir en Pologne. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, du tourisme? Tu repars ce soir? Oui, je pose la question officiellement.
Ah, j'ai la chance d'avoir des amis ici. D'accord. Donc je vais passer quelques temps avec mes amis, de rencontrer, de parler, de faire de complot pour la liberté de conscience. Là, bien sûr.
Vous écoutez Radio Campus Lille, des informations exclusives. Nous préparons des complots. Nous sommes une radio de comploteurs. Sur ce, à bientôt.
Ité missa est.
Voilà. Sur ce, à bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Au revoir.